Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, pour une psychanalyse non freudienne.
Bonsoir, merci d'être là pour ce dernier cours de l'année, 170e cours depuis le début de l'Université populaire. Il y a eu donc, vous avez vu, deux séances de conclusion. On considérera que cette troisième séance est une conclusion de la conclusion, mais que, comme toute bonne conclusion, c'est aussi une ouverture, un genre d'introduction à quelque chose d'autre, à quelque chose de divers, des pistes, pas des conclusions, mais des pistes, des ouvertures, des occasions de recherche collective. Vous allez voir pourquoi, comment et de quelle manière. L'âme peut être matérielle, et faire l'analyse d'une âme matérielle, c'est proposer une psychanalyse. Donc je vous propose des pistes pour une psychanalyse, non pas post-freudienne, comme j'ai pu le dire quelque temps, mais reprenant mes Bachelard, qui a une philosophie du nom chez Gaston Bachelard, qui est un livre extrêmement intéressant, une philosophie non-euclidienne, non-newtonienne, etc., etc. Donc je propose une philosophie non-freudienne et des pistes pour une philosophie non-freudienne. Je ne vais pas refaire le cours synthétique des 20 séances, simplement vous dire qu'à la lumière et à la faveur de quelques publications récentes, eh bien je vais, d'un point de vue de l'anecdote, vous montrer ce qu'est essentiellement la psychanalyse. L'anecdote, c'est tout simplement deux cahiers qui ont été retrouvés, et ces deux cahiers racontent l'analyse d'une dame dont on connaît le prénom et le nom, Anna G. Et cette dame a fait une psychanalyse à Vienne le 21 avril 1921. Ce qui amène cette dame, qui est psychiatre au demeurant, ce qui amène cette jeune femme chez Freud, s'allonge sur le divan de Freud, c'est le fait qu'elle est fiancée depuis un certain temps, depuis 7 ans, avec un homme, et qu'elle ne sait pas si elle doit l'épouser. 80 séances sont nécessaires, et cette dame raconte le détail de ces séances. Freud va donner une proposition très simple. Le père de cette jeune fille a été son premier amant. Quand elle rêve de petits gâteaux, ce ne sont pas des petits gâteaux, mais ce sont des enfants. Quand elle rêve d'une crotte, c'est l'expression, ça ne peut pas être une crotte, évidemment, mais c'est un enfant. Et vous connaissez l'histoire, la pensée magique, la pensée symbolique, et on a le délire habituel, puisqu'il considère, Freud, que cette femme a le désir d'être battue par son propre père, et qu'elle a le désir de jouir des fustigations infligées par son propre père. Pour ceux qui s'en souviennent, un enfant battu, par exemple, le travail de Freud sur ce sujet-là, qui renvoie à l'expérience que sa propre fille avait effectuée, Anna Freud, eh bien, on voit effectivement que l'inconscient freudien, c'est l'inconscient de Freud. Et que quand l'inconscient de tel ou tel individu est sondé par Freud, ce que Freud y voit, c'est l'image de son propre inconscient. Ça paraît assez sidérant de découvrir au bout de ces deux cahiers que, immanquablement, tout ce qui fait l'obsession de Freud se retrouvera comme une clé unique pour ouvrir la totalité des serrures. Et on a là le retour sur l'envie du pénis, sur le désir du père, sur les histoires que vous connaissez maintenant. Donc c'est contre cette vision des choses extrêmement réductrice, quel que soit le problème, la solution est toujours la même, et on rabat toujours tout sur des questions édipiennes, que je souhaiterais qu'on puisse envisager une psychanalyse non freudienne. Je souhaiterais qu'on puisse envisager également une psychanalyse non freudienne, parce qu'aujourd'hui, psychanalyse, c'est devenu une espèce de bric-à-brac de thérapies diverses et multiples, et pas très étonnant. Juste un petit mot tout de même intéressant, parce que on m'a repris un peu de temps sur les questions du coût des séances. Cette jeune fille qui a fait son analyse avec Freud, elle a donc 80 séances en présence de Freud sur le divan. 40 francs suisses à l'époque, c'est l'équivalent de 24 800 euros 2010. 24 800 euros, une analyse au cours de laquelle elle a conclu, via les envies de pénis, de meurtre du père, etc., qu'il ne lui fallait pas épouser son fiancé, mais en épouser un autre avec lequel elle a eu de nombreux enfants, avec lequel les choses se sont bien passées. Donc vous voyez un petit peu sur quoi ça débouche cette aventure. Donc je disais qu'il fallait également lutter contre cette lecture des choses, mais également lutter contre l'idée qu'aujourd'hui la psychanalyse ne signifie pas grand-chose parce qu'on a des psys, au sens large du terme, qui sont finalement des espèces de guérisseurs qui utilisent une espèce d'éclectisme, qui recourent à une espèce d'éclectisme, qui mélangent un certain nombre de techniques. Vous avez par exemple, sans crainte de la contradiction, des gens qui aujourd'hui se disent psychiatres et psychanalystes. j'allais dire comme prêtres et athées, mais non, comme ça existe aussi, des prêtres athées, donc c'est pas un bon exemple. Enfin, des gens qui sont censés prescrire des médicaments. Le psychiatre est un médecin qui prescrit des médicaments pour une pathologie tout à fait particulière et qui soigne et qui guérit avec des molécules. Et le psychanalyste vous dit, pas de molécules, c'est la guérison par la parole, nous dit Freud dans le texte qui s'appelle la thérapie psychanalytique, où il nous dit c'est de l'échange de parole et ça n'est que de l'échange de parole. Alors, soit il y a des médicaments, soit il y a de l'échange de parole, mais alors comment peut-on justifier l'un et l'autre? Comment peut-on être psychiatre, par exemple, et psychanalyste? Vous avez des freudiens très orthodoxes qui défendent Freud et qui, en même temps, travaillent dans des dispensaires où la thérapie est gratuite. Donc moi, je trouve très bien qu'il y ait des dispensaires et que la thérapie soit gratuite, mais ça va tout de même contre le corpus. Freud fait savoir qu'il faut que ça coûte physiquement, il faut que ça coûte de l'argent, il faut qu'on puisse payer. Il nous fait savoir que si on ne paie pas, la cure ne sera pas efficace parce qu'on n'aura pas le désir de guérir. Donc d'un côté, vous avez la doctrine du paiement coûteux, et puis de l'autre côté, des gens qui sont freudiens, mais qui sont dans la gratuité tout de même. Vous avez des gens qui sont dans la logique du divan, mais qui considèrent que vous n'êtes pas obligé de vous allonger sur le divan. Le divan, ce n'est pas simplement une commodité mobilière, c'est aussi pour mettre dans un état physique qui est censé générer un état psychique qui vous permettra, sur le mode régressif, de vous retrouver dans la position de celui qui aura été traumatisé. Et vous avez des individus qui disent « mais vous n'êtes pas obligé de vous installer sur le divan, vous pouvez aussi vous asseoir devant moi, dans un fauteuil ». Tout ça est très bien, je ne suis pas contre les alternatives, mais comment peut-on être une chose et son contraire ? Comment peut-on prélever en disant ça m'intéresse chez Freud, puis ça ne m'intéresse pas? Je crois simplement que un siècle plus tard, on découvre effectivement qu'il y a une espèce d'éclectisme dans la méthode et qu'on prend tout ce qui est bon pourvu qu'on puisse aider, qu'on puisse soulager des souffrances. Et il me semble tout ça que c'est une bonne chose, qu'on puisse effectivement viser la disparition d'une douleur, la disparition d'une souffrance ou la disparition des misères affectives ou des pathologies qui sont là et qui conduisent l'individu sur le divan. Mais alors pourquoi ne pas faire une révolution épistémologique et méthodologique en disant sur le mode de l'histoire qui contredit toujours la légende, prenons, prélevons, voyons ce qui peut tenir le coup, ce qui ne tient pas le coup, faisons, effectuons un droit d'inventaire. Je pense effectivement qu'il est temps de proposer un droit d'inventaire quand aujourd'hui le règne du psy fait qu'on ne sait plus ce qui distingue le psychiatre du psychologue, du psychanalyste, du psychothérapeute. Et j'ai même vu récemment qu'il existait des psychogénéalogistes qui sont capables de vous faire votre arbre généalogique et de vous expliquer pourquoi, si vous avez eu un arrière-grand-oncle sodomite au XVIIIe siècle, ça peut générer chez vous des comportements qui peuvent expliquer que vous soyez ceci plutôt que cela. Il y a, en plus de ça, une abondance d'écoles. Vous avez des freudiens, vous avez des adlériens, vous avez même des anna-freudiens, comme on le dit, vous avez des clagniens, vous avez des lacaniens, et puis vous avez après des écoles particulières, vous avez l'analyse existentielle de Binswanger, vous avez la psychologie du moi de Hartmann, et on s'aperçoit que à chaque fois que vous avez un psychanalyste, vous avez une méthode, et que finalement, il y a un bricolage méthodologique dans cette aventure. Chacun s'invente une espèce de psychanalyse à sa dimension ou à sa main, indépendamment de ce que Freud aura pu raconter. Donc ma proposition, elle consiste à dire, eh bien, soyez clair, ou vous respectez le texte et alors expliquez-vous, ou alors vous ne le respectez pas et inventez autre chose, proposez autre chose, et ne soyez pas les gardiens d'un temple fissuré ou quasiment effondré. On a des trajets extrêmement intéressants, comme celui d'un François Roustang, par exemple, qui démarre comme jésuite, qui devient freudien, puis lacanien, et qui aujourd'hui pratique l'hypnose. Sur une carrière, pourrait me dire qu'après tout, entre jésuite et psychanalyste, il n'y a pas forcément un grand écart, mais on pourrait imaginer effectivement qu'un trajet individuel et singulier comme ça est peut-être l'occasion de synthétiser le trajet d'une génération, ou le trajet d'une discipline. Comment finalement une ontogénèse, disons-le comme ça, une ontogénèse récapitule la phylogénèse, c'est-à-dire comment une histoire individuelle récapitule l'histoire de la discipline. Et puis il faut aller aussi contre le règne des psy-médiatiques, qu'on voit à la télévision et qui vous explique quand il y a la moindre diarrhée dans une école que les psychologues sont sur place parce qu'il ne faut pas que les enfants soient traumatisés trop longtemps, ou qui vous explique quand il y a eu un crash d'avion que les psychologues sont là et pourquoi faire ? Et que sont ces psys qui sont là et pourquoi faire ? Quelle est cette méthode ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Quel genre d'église ? Quelle chapelle des fantômes ? Qu'est-ce que c'est que ce règne du psy qui fait qu'aujourd'hui la théorie suppose que le procès est nécessaire pour qu'on ait pu être considéré comme, non pas un coupable, mais comme une victime, qu'il faut obligatoirement discuter avec des gens quand on n'a pas retrouvé un cadavre parce que le deuil est impossible à faire, enfin des espèces de lieux communs jamais démontrés, mais reproduit en permanence comme des évidences ou comme des vérités. Et les gens répètent qu'effectivement, l'absence de cadavre, on ne parvient pas à faire son deuil ou ce genre de choses. C'est plus compliqué que ça, me semble-t-il. Mais il y a une espèce de vulgate qui est proposée. Et donc, mon souci, c'est qu'on puisse aller au-delà de cette unique clé de Freud qui est censée marcher sur la totalité des serrures, au-delà de l'éclectisme d'un certain nombre de méthodes avec un bric-à-brac thérapeutique mélangé qui produit aujourd'hui le règne du psy. L'idée qu'aujourd'hui, dans un règne de nihilisme total, le psy médiatique pourrait faire la loi en matière de sens, tout ça est l'occasion pour moi de dire « allons au-delà de ce qui existe actuellement, faisons un état des lieux pour proposer quelque chose d'autre ». Il y a eu un coup d'état freudien qui est assez singulier, c'est-à-dire que Freud a laissé croire qu'il avait inventé la psychanalyse, qu'il était le seul, que ça n'existait pas avant lui, que pendant lui, il a eu des domestiques d'une certaine manière, et qu'après lui, ce n'était que des gens qui étaient dans une logique de déviance, on avait des hétérodoxes, on avait des hérétiques, et qu'il fallait absolument condamner, exclure, voir Adler, voir Jung, voir Reich et quelques autres. Je voudrais vous lire quelques textes, parce que c'est intéressant de faire parler Freud sur cette aventure. Décembre 1908, Freud est aux États-Unis et il donne 5 leçons à la Fondation Clark University de Worcester dans le Massachusetts pour expliquer ce qu'est la psychanalyse. Et il y a un texte qui est publié de cette aventure, le texte s'appelle « De la psychanalyse » et on peut lire ceci. « Si c'est un mérite que d'avoir appelé la psychanalyse à la vie, alors ce n'est pas mon mérite. Je n'ai pas pris part au premier début de celle-ci. J'étais étudiant et occupé à passer mes derniers examens, lorsqu'un autre médecin viennois, le docteur Joseph Breuer, appliqua le premier ce procédé sur une jeune fille malade d'hystérie de 1880 à 1882. Aveu de Freud en décembre 1908 aux États-Unis, dans une conférence qui présente la psychanalyse aux États-Unis, il s'agit d'arriver sur un nouveau continent et de proposer la nouvelle discipline, Freud dit « Je n'ai pas inventé la psychanalyse, l'inventeur de la psychanalyse s'appelle Joseph Breuer ». Quelque temps après, 1914, changement de ton, et je vous lis un autre texte. Cette fois-ci, c'est dans « Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique ». Lorsqu'en 1909, du haut de la chaire d'une université américaine, il me fut donné pour la première fois de parler en public de la psychanalyse, j'ai déclaré saisi d'émotion, parce que signifiait ce moment eu égard à tous les efforts que j'avais déployés, que ça n'était pas moi qui avais appelé à la vie la psychanalyse. Ce mérite, un autre l'avait acquis, Joseph Breuer, à une époque où j'étais étudiant et occupé à passer mes examens, de 1880 à 1882. Cependant, des amis bien intentionnés m'ont depuis suggéré d'examiner si je n'ai pas donné alors à ma reconnaissance une expression inappropriée. Si je ne me suis pas trompé, quoi. J'aurais dû, comme en des circonstances antérieures, rendre hommage au procédé cathartique de Breuer en tant que stade préliminaire de la psychanalyse et ne faire commencer celle-ci qu'avec mon rejet de la technique hypnotique et l'introduction des libres associations. C'est-à-dire, la chose est clairement dite. Freud dit, dans un moment de sincérité, la psychanalyse est une invention de Joseph Breuer. Après, il se dit, mais c'est pas possible, il faut que je capte à mon bénéfice la création de cette discipline, donc c'est moi. Il suffit qu'il ajoute une ou deux petites choses en disant, eh bien, ces deux petites choses définissent véritablement la psychanalyse. Avant, ça n'est qu'un stade pré-freudien. Et on a cette légende qui se construit. Avant Freud, c'est du pré-freudien. Ça prépare l'arrivée de la psychanalyse, mais la psychanalyse, c'est lui. C'est une négation de l'aventure collective qui a été la psychanalyse. Vous vous souvenez, on a parlé de la Société du Mercredi, la Société psychanalytique de Vienne. C'est nier le travail d'Adler, de Steckel, de Rank ou de Federn, qui sont des individus qui ont beaucoup contribué au débat. Il efface le travail collectif et il récupère pour son intérêt propre la psychanalyse comme sa création. Il aurait fallu, mais on n'avait pas le temps pour ça, mais montrer par exemple combien il a pillé Pierre Janet, qui lui est un psychologue français, agrégé de philosophie, professeur au Collège de France, thérapeute lui-même, obtenant des succès en thérapie, simplement modeste, discret, un personnage qui n'a avancé de conclusions que quand il a eu des conclusions, alors que Freud lui concluait alors qu'il n'avait même pas de clinique derrière lui. Et il y a eu un nombre considérable de thèses de Pierre Janet qui ont été pillées par Sigmund Freud. Pierre Janet fait savoir qu'il y a une étiologie sexuelle des névroses, pas seulement sexuelle, mais qu'il y a aussi une étiologie sexuelle des névroses, et qu'on peut, par une méthode d'association libre, d'écriture automatique, ça produira ses effets ensuite chez les surréalistes, obtenir la conscientisation du trauma, et que la conscientisation du trauma, c'est le principe même de l'analyse, ce qu'on appelle l'abréaction chez Freud. Le concept d'abréaction chez Freud est déjà chez Pierre Janet, 4 années avant que Freud ne revendique la paternité d'une idée comme celle-ci. il parvient à faire ce que Marx a fait pour le socialisme. C'est-à-dire, Marx a dit un jour, il y a tous les socialismes, ils sont divers et multiples, et puis il y a un socialisme, le mien, le vrai. Freud parvient à exactement la même chose, avec un coup d'État qui consiste à dire « la psychanalyse, c'est moi, c'est personne d'autre, c'est moi tout seul ». Et effectivement, encore aujourd'hui, quand on attaque le freudisme, on donne l'impression d'attaquer la psychanalyse, ce qui est faux. On peut, comme je l'ai fait, attaquer la psychanalyse freudienne et considérer que la psychanalyse est défendable. C'est mon propos. Quelle psychanalyse ? C'est la proposition que je vous fais sur le principe de l'hypothèse. D'abord, ça supposera la promotion d'un inconscient matériel. Oui, l'inconscient existe, à l'évidence. Mais l'inconscient n'a pas qu'une seule formule, qui serait immatérielle, la formule freudienne. Je vous ai dit tout à l'heure que l'inconscient freudien, c'était l'inconscient de Freud. Que quel que soit le patient, Freud finissait toujours par trouver ce qui se trouve dans son propre inconscient. Il faut opposer deux choses. J'ai eu l'occasion d'utiliser ces deux mots-là tout à l'heure, ontogénèse et phylogénèse. L'ontogénèse, c'est l'évolution de l'être. La phylogénèse, c'est l'évolution de l'espèce. On dit souvent que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, c'est-à-dire l'évolution d'un individu récapitule l'évolution de l'humanité tout entière. Nous avons connu le liquide amniotique du ventre maternel. Nous avons connu la station quadrupède, puis nous sommes devenus bipèdes, puis nous sommes, etc., etc. Donc ce trajet-là, eh bien, il reproduit l'évolution de l'humanité en vous. Une existence individuelle n'est jamais que le déploiement de l'aventure collective, et vous êtes, d'une certaine manière, la duplication de l'aventure collective de manière individuelle. Eh bien, Freud nous dit qu'il y a un inconscient phylogénétique. Ce qui se trouve dans l'inconscient est phylogénétique, c'est-à-dire que nous avons hérité de ce que l'espèce a fait depuis qu'elle existe. La horde primitive, le meurtre du père, le banquet cannibale, enfin toutes ces choses dont on a eu l'occasion de parler, le fait que la première femme a été violée et qu'elle a conservé dans sa psyché, sur le principe de la phylogénèse, ce traumatisme qui fait aujourd'hui qu'elle est dans la détestation et dans la haine des hommes. L'inconscient freudien est phylogénétique, c'est-à-dire qu'à la naissance, vous avez déjà, dans votre inconscient, qui est en plus de ça immatériel, vous avez déjà un certain nombre d'informations qui vont vous déterminer, quoi que vous fassiez. Ces choses-là ont été héritées sur le principe phylogénétique. Moi, je propose un inconscient ontogénétique, c'est-à-dire que nous sommes nés avec un inconscient. Cet inconscient, il est matériel et il est informé par l'histoire, par votre aventure. Et vous êtes singulier. Vous êtes unique. L'inconscient d'un individu n'a rien à voir avec l'inconscient du voisin, qui n'a rien à voir avec l'inconscient du voisin d'à côté encore. Freud nous avait parlé d'un inconscient nouménal. Il nous avait dit dans une lettre à Binswanger, souvenez-vous, qu'il était soucieux de ce que Kant pensait très précisément dans la critique de la raison pure, quand il opposait le phénomène et le noumen. Le noumen, c'est ce qui n'est accessible que par la pensée. Le phénomène, c'est ce qui est accessible par les cinq sens. C'est-à-dire que vous pouvez penser Dieu, qui est donc de nature nouménale, mais vous ne pouvez pas y accéder de manière phénoménale, c'est-à-dire de manière sensorielle, si vous voulez. En revanche, vous pouvez appréhender par les cinq sens et la totalité de votre corps la vérité du monde ou la matérialité du monde. Contre l'inconscient nouménal de Freud, il faut proposer un inconscient phénoménal, c'est-à-dire matériel. Ce qui veut dire que quand on a toute une tradition derrière Freud, la tradition platonicienne, la tradition de l'âme immatérielle, même la tradition pythagoricienne, si vous voulez, de l'existence d'une âme immatérielle, Pythagore, Platon, Plotin, le néoplatonisme, les pères de l'Église, saint Augustin et son âme immatérielle, la substance pensante chez Descartes, vous avez une tradition idéaliste, spiritualiste chez Freud. Il faut restaurer une tradition matérialiste, de Démocrite à Jean-Pierre Changeux. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur les fragments présocratiques de Démocrite, vous obtenez des informations qui sont à peu près semblables à celles de Jean-Pierre Changeux dans L'homme neuronal, ou dans tous les travaux signés aujourd'hui par les gens qui s'occupent de neurosciences. Il y a une matérialité, le neurone, les neurones, et il y a une matière grise susceptible d'être informée, et l'information de cette matière grise, elle constitue l'inconscient qui vous détermine. Je voudrais faire un détour en passant par Nietzsche, vous citez aussi un texte de Nietzsche extrait de Par-delà le bien et le mal, qui est un texte extrêmement intéressant parce qu'il faudrait reprendre les choses à la base, et la base, elle est plutôt nietzschéenne. Je vous lis cette citation de Par-delà le bien et le mal. « La voie est ouverte à des conceptions nouvelles, à des raffinements nouveaux de l'hypothèse de l'âme et des notions comme celle de l'âme mortelle. L'âme multiple, l'âme édifice collectif des instincts et des passions, réclame désormais d'avoir droit de cité dans la science. Le psychologue nouveau, tout en mettant fin à la superstition qui a proliféré autour de la notion d'âme avec une luxuriance quasi tropicale, s'est en quelque sorte exilé dans un nouveau désert et dans une méfiance nouvelle. Il se peut que la tâche des psychologues anciens ait été plus aisée et plus gaie, mais en fin de compte, il se sent par là même condamné à inventer, lui aussi, et qui sait, peut-être aussi à découvrir. Donc si on retrouve la démarche nietzschéenne, on verra qu'effectivement, il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Nietzsche continue, il déplore que la psychologie soit restée victime de préjugés moraux, c'est-à-dire qu'en gros, que la psyché soit pensée sur le mode de l'âme et que l'âme, elle, soit en relation avec l'âme des chrétiens. Nietzsche dit « Elle n'a pas osé se risquer dans les profondeurs, la psychologie. » La concevoir comme je le fais sous les espèces d'une morphologie et d'une génétique de la volonté de puissance. Morphologie et une génétique de la volonté de puissance. C'est une idée qui n'a effleuré personne, si tant est qu'on puisse, d'après tout ce qui a été écrit, deviner aussi ce qui a été tu. Nietzsche veut une physiopsychologie. Une physiopsychologie. Il me semble que l'expression est extrêmement intéressante, susceptible de devenir la reine des sciences, celle que les autres sciences ont pour fonction de servir et de préparer. Car désormais, la psychologie est de nouveau la voie qui conduit aux problèmes fondamentaux. Voilà ce que Nietzsche écrit dans « Par-delà le bien et le mal ». Il y a un détour freudien considérable par les effets qu'il aura produits, mais l'idée de revenir à Nietzsche pour repartir de cette proposition d'une morphologie et d'une génétique de la volonté de puissance, ça me paraît être une piste extrêmement intéressante. Il faut, comme je vous disais qu'il fallait en finir avec l'inconscient immatériel au profit d'un inconscient matériel, en finir avec le monde virtuel de Freud au profit d'un monde réel. Le monde virtuel de Freud, il fonctionne avec sa bibliothèque. C'est assez singulier, si vous visitez le 19 Berggasse à Vienne, de voir dans quel univers Freud a passé la totalité de sa vie intellectuelle. Il a travaillé dans un petit bureau rempli d'antiquités qui venaient d'Assur, de Babylone, qui venaient de Sumer, qui venaient de Grèce, de Rome, de la Grande Grèce, d'Égypte beaucoup aussi. Et il était le contemporain des morts égyptiens. Isis et Osiris étaient ses contemporains beaucoup plus que son voisin de palier ou que les ouvriers qui travaillaient dans la rue du 19 Berggasse. C'est quelqu'un qui a pensé à partir de sa bibliothèque, qui a pensé à partir de sa collection d'antiques, qui a pensé à partir des travaux qu'il lisait, des confrères qu'il ne citait pas, des scientifiques. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a beaucoup travaillé, qui a peu cité, qui a parfois cité ce qu'il voulait mettre en avant pour mieux ne pas citer ce qui était important. Par exemple, toute la littérature sur le rêve qui montre qu'il a tout lu, mais ce qu'il a lu et qu'il l'a influencé, évidemment, il n'en parle pas. Ce qui fait silence dans la bibliographie de Freud est plus important que ce qui est montré. Ce qui est montré pour cacher autre chose. C'est-à-dire que Freud n'a pas le souci de l'histoire. Freud est dans une perspective anhistorique. Il est dans une perspective platonicienne. Il y a une espèce de monde des idées dans lequel flottent des idées pures, les concepts de sa métapsychologie, et le réel n'existe pas. L'histoire n'existe pas. La vérité du monde n'existe pas. Il faut proposer, me semble-t-il, un monde réel en opposition à ce monde qui est le monde de la pensée magique, qui est le monde de l'occultisme. On a déjà eu l'occasion de voir combien il sacrifiait à la numérologie, comment il pratiquait les signes de conjuration, aussi bien dans ses correspondances avec Fliess et Jung que dans son œuvre même. Freud est dans une perspective magique. Il est dans une pensée magique. Or, il y a une tradition philosophique qui, elle, ne se réfère pas à une pensée magique. Et je trouve qu'on a trop souvent laissé cette tradition-là de côté. Je vous le dis rapidement, parce que là aussi, on aurait pu consacrer une année à la critique philosophique de la psychanalyse, qui est une critique contemporaine de Freud lui-même. Je n'entre pas dans les détails, je donne seulement des grands noms, simplement pour vous faire savoir qu'on va laisser de côté toute la tradition spiritualiste, kantienne, néo-kantienne du début du XXe siècle en France, de gens qui ne sont connus que par les spécialistes de la philosophie française de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, mais simplement pour donner des noms que tout le monde connaît, ne serait-ce que par réputation. Alain, par exemple, le premier. Dans les éléments de philosophie, Alain nous fait savoir que l'inconscient n'a pas à être pensé comme un personnage mythologique, à part entière, ou à soi seul. Alain, donc, lucide sur ce terrain-là. Karl Jaspers, qui, avec la situation spirituelle de notre temps, écrit que l'homme n'est pas réductible à sa seule libido, que nous ne sommes pas que des instincts, que nous ne sommes pas que des pulsions, qu'il y a aussi des instincts et des pulsions, certes, mais que tout ça s'inscrit dans l'histoire. Il faudrait voir du côté de Sartre, bien sûr, et je vais vous en parler un petit peu plus précisément tout à l'heure en abordant un grand chapitre de L'être et le néant, parce que Sartre considère que l'inconscient freudien n'existe pas, mais qu'il est d'une certaine manière l'inconscient, une des modalités de la conscience que lui conserve sur le principe du pour-soi. Il appelle ça le pour-soi dans le langage de la phénoménologie, mais Sartre considère que tout est affaire de conscience, peut-être d'opacité de la conscience, et que peut-être nous nommons inconscient ce qui n'est jamais qu'opacité de la conscience, mais que pour autant, l'idée d'un inconscient autonome et psychique est une hérésie. Karl Popper, qui écrit dans La connaissance objective que la psychanalyse, l'astrologie et la métaphysique ne se soumettent pas aux procédures épistémologiques de falsifiabilité. C'est-à-dire que quand vous croyez que les astres déterminent votre existence, quand vous pensez qu'il existe par exemple un être ou un être de l'être ou un être de l'étant sur le principe de Heidegger et que vous n'avez pas besoin de vous soumettre à des procédures scientifiques et épistémologiques pour prouver que ces choses-là existent, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le performatif, vous êtes sur le performatif, vous affirmez que, eh bien on est dans une perspective de performatif, aurait pu dire Popper, et Popper dit ça n'est pas une science. Il y a un travail intéressant chez Wittgenstein également, dans Conversation sur Freud. Wittgenstein nous dit que Freud voulait démythologiser le monde, et en fait il a créé de nouveaux mythes. Et puis plus récemment, Deleuze et Guattari qui écrivent dans l'Anti-Édipe que la psychanalyse freudienne, lacanienne aussi, tout ça c'est très édipien, que ça renvoie à une espèce de système normatif et qu'au bout du compte, tout ça est fait pour vous tenir au calme et pour reproduire le vieux schéma classique patriarcal de la famille, etc. Deleuze et Guattari disent qu'il faut plutôt trouver des nouveaux agencements sur le principe nietzschéen, c'est-à-dire inventez-vous des vies. Construisez-vous des vies, et quand vous aurez construit vos vies, vous n'aurez pas besoin de psychanalyse. Il écrit, n'allez pas vous faire psychanalyser, cherchez bien plutôt les agencements qui vous conviennent. Sous-entendu, si vous ne trouvez pas les agencements qui vous conviennent, bien sûr, vous aurez besoin d'une psychanalyse. Et puis, je ne résiste pas avec un certain sourire à l'idée de vous lire un texte de Derrida, dernier des grands philosophes en date à avoir critiqué la psychanalyse, dans un ouvrage qui s'appelle « De quoi demain ?», point de suspension. Et cet ouvrage est un échange avec une dame qui s'appelle Elisabeth Roudinesco. Et dans cet ouvrage, Derrida dit ceci, écrit ceci, puisque Derrida ne disait rien qu'il n'ait écrit. Derrida est quelqu'un qui n'a jamais fait une conférence sans avoir écrit la totalité du texte de sa conférence. Voilà ce que Jacques Derrida, qui s'exprime en présence d'Elisabeth Roudinesco, disait de la psychanalyse. « La grande conceptualité freudienne a sans doute été nécessaire, j'en conviens, nécessaire pour rompre avec la psychologie dans un contexte donné de l'histoire des sciences. » Mais je me demande si cet appareil conceptuel survivra longtemps. Je me trompe peut-être, mais le ça, le moi, le surmoi, le moi idéal, l'idéal du moi, le processus secondaire et le processus primaire du refoulement, etc., en un mot, les grandes machines freudiennes, parenthèse, y compris le concept et le mot d'inconscient, ne sont à mes yeux que des armes provisoires, voire des outils rhétoriques bricolés contre une philosophie de la conscience, de l'intentionnalité transparente et pleinement responsable. Je ne crois guère à leur avenir. Je ne pense pas qu'une métapsychologie puisse résister longtemps à l'examen. On n'en parle déjà presque plus. Voilà ce que disait Jacques Derrida dans un livre qui est paru un peu occulté par le 11 septembre, puisque le livre est paru à peu près dans ces eaux-là. Mais voilà ce que disait Derrida en présence d'Elisabeth Roudinesco. Il disait ce qu'on peut dire quand on fait de l'histoire et pas de la légende. Effectivement, le freudisme est daté, dépassable et quasi dépassé, voire fini. Je voudrais vous parler de deux philosophes français qui me paraissent des philosophes importants pour pouvoir penser une psychanalyse non freudienne, donc post-freudienne, mais non freudienne. Il s'agit de Georges Politzer. Georges Politzer est quelqu'un dont on parle peu, parce que lui a été résistant fin 1940. Et Georges Politzer a été fusillé au Mont-Valérien le 23 mai 1942. Philosophe extrêmement intéressant, vie passionnante, écrite sous le signe du drame de sa Hongrie au Mont-Valérien, mais il y a une pensée extrêmement intéressante chez Georges Politzer. Il écrit en 1939 un texte dans lequel il annonce la fin de la psychanalyse. 1939, Politzer annonce la fin de la psychanalyse. Février 1929, dans la crise de la psychanalyse, Politzer, un tout petit texte, mais un texte extrêmement intéressant, Politzer nous dit qu'il faut réformer la psychanalyse. Qu'on ne peut pas fonctionner avec la psychanalyse comme ça. Il y a des textes chez Politzer qui semblent en faveur de la psychanalyse, tout simplement parce que ça choque le bourgeois et que ce qui intéresse le jeune Politzer qui a le sang chaud, c'est de choquer le bourgeois, jusqu'à ce qu'il comprenne que cette psychologie, elle peut choquer le bourgeois, mais qu'elle n'est pas fondée. Il considère à cette époque-là, 1929, qu'il faut en finir déjà avec la scolastique freudienne, c'est ce vocabulaire qui ne signifie rien, qui en envoie plein la vue, qui est compliqué, que personne ne comprend et qui intimide. Qu'est-ce que c'est que le principe de plaisir, le principe de réalité, le ça, le moi, le surmoi, la topique, qu'est-ce qu'une métapsychologie, toutes ces choses-là qui font qu'effectivement on peut intimider. Et Politzer dit scolastique tout ça. Il propose un droit d'inventaire, donc pas détruire, non pas tout mettre à la poubelle, mais dire simplement il y a des choses à prendre, puis il y a des choses à laisser de côté. Il y a des moments datés, parce qu'il y a des choses conjoncturelles. Il nous dit que la psychanalyse freudienne est un moment dans un mouvement, mais qu'elle ne saurait être la forme définitive de la psychanalyse. Cette idée donc qu'il y a une psychanalyse pendant Freud et une psychanalyse après Freud, une psychanalyse avant Freud, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Joseph Breuer, et Forel et quelques autres, mais donc il y a une psychanalyse non freudienne. Politzer veut en finir également avec, citation, les simulacres abstraits et mythologiques du freudisme, ce qui renvoie avec une compréhension très claire et très nette du fait que la psychanalyse est une aventure spiritualiste, idéaliste, métaphysique, que le freudisme est un platonisme à sa manière, qu'il n'est pas un matérialisme, que le freudisme est une croyance, qu'il n'est pas une philosophie, qu'il est une proposition qui suppose qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, mais sûrement pas une proposition avec des hypothèses épistémologiquement vérifiées. C'est un phénomène de croyance, on croit ou on ne croit pas. Politzer dit non, c'est pas on croit ou on croit pas, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est vérifiable ou c'est pas vérifiable. Il critique également à l'époque, déjà, l'idée que quelqu'un qui ne serait pas psychanalysé n'aurait pas le droit de critiquer la psychanalyse. Et Politzer dit, mais enfin on peut tout de même avoir une pensée critique quand on n'a pas été soi-même allongé sur un divan. On peut exercer correctement la raison, on n'a pas besoin d'avoir été soi-même violé pour être opposé au viol. Il stigmatise, citation, la conception magique de la psychanalyse, la conception magique. Il y a effectivement une pensée magique. Le pli de pantalon n'est pas un pli de pantalon. Le pli de pantalon est le signe d'une fixation sur le caractère anal de votre tempérament. Donc on a une pensée magique, le réel n'est pas le réel. Le réel est plus que le réel déborde le réel, et le réel est toujours autre chose que le réel. Il nous parle également, et ça c'est extrêmement intéressant d'avoir saisi ça très vite et très tôt, de la nature conservatrice et réactionnaire. Je vais vous lire un texte, enfin trois petits textes, mais des textes assez effrayants, qui eux font savoir très vite et très tôt qu'il y a une collusion de fond, et pas seulement de forme, une collusion de fond entre la psychanalyse freudienne et le fascisme européen de l'époque. J'y arrive. Dans Psychologie et marxisme, un petit texte publié dans la revue Commune en novembre 1933, il annonce donc la mort de la psychanalyse avant même la mort de Freud. Il écrit, et je vous lis ces petits textes dont je vous parlais, « Il suffit de feuilleter n'importe quel ouvrage psychanalytique pour se rendre compte à quelle puérilité peut aboutir la sociologie freudienne. Indiquons seulement qu'en fait, Freud et ses disciples ont été amenés à proposer les complexes à la place des forces motrices réelles de l'histoire. La sociologie à laquelle ils ont abouti ainsi fait apparaître à la surface l'idéalisme que la doctrine contient à la base. Par cet aspect des théories psychanalytiques, le mouvement issu de Freud a rejoint par-delà la réaction philosophique, la réaction sociale et politique. Ce qui veut dire que quand vous avez recours au complexe, vous mettez de côté l'histoire. Quand vous renvoyez à une lecture métapsychologique, vous congédiez l'histoire. Votre névrose est là à voir avec un inconscient phylogénétique. Tous les freudo-marxistes diront non, l'inconscient il est inscrit dans l'histoire. Et ça n'est pas indifférent que nous soyons dans une famille pauvre, riche, cultivée, bourgeoise, détraquée ou saine, ou etc., etc., pour la construction nominaliste d'un inconscient, pour la construction d'un inconscient personnel. Autre texte de Georges Politzer. On a souvent fait état, dans les milieux psychanalytiques, de l'exil de Freud symbolisant la condamnation de la psychanalyse par les nazis. Certes, il y a eu des déclamations nazies contre la psychanalyse. Il n'en est pas moins vrai que la psychanalyse et les psychanalystes ont fourni pas mal de thèmes aux théoriciens nazis, en premier lieu celui de l'inconscient. L'attitude pratique du nazisme à l'égard de la psychanalyse a été déterminée essentiellement par des raisons tactiques. En prenant des allures d'iconoclastes, les psychanalystes ont profondément heurté les sentiments des masses des classes moyennes. Telle est la spécialité historique de l'anarchisme petit-bourgeois. En plus de la question raciale, c'est pour exploiter ce fait que le nazisme a dénoncé quelque peu le freudisme, mais cela ne l'a jamais empêché ni d'intégrer les psychanalystes parmi le personnel nazi, ni d'emprunter des thèmes à la doctrine freudienne. Ceci est écrit par un homme qui va être fusillé par les nazis au Mont-Valérien. Dernier texte, enfin. Il est vraisemblable aujourd'hui que la psychanalyse subira un sort analogue à celui de la phrénologie, cette fausse science qui À l'époque, considérait qu'à partir des bosses du crâne, on pouvait dire qui vous étiez, d'où l'expression « avoir la bosse des maths », par exemple. Un sort analogue à celui de la phrénologie et de l'hypnotisme. Comme eux, elle appartient au passé. La voie des découvertes réelles et de la science effective de l'homme ne passe pas par les raccourcis sensationnels de la psychanalyse. Elle passe par l'étude précise des faits physiologiques et historiques. À la lumière de cette conception, dont l'ensemble des sciences modernes de la nature garantit la solidité. De la science, de l'analyse, des faits physiologiques, de l'histoire, voilà ce que propose Georges Politzer dans la critique qu'il fait de la psychanalyse. Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année 1939. La contribution théorique de Politzer, elle s'appelle la psychologie concrète. Évidemment, quand vous êtes fusillé par les Allemands avant l'âge de 40 ans, vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout de vos intuitions. Vous n'avez pas le temps de développer, de préciser. Il a connu l'exil, il a été obligé de quitter son pays, enfin, il a été poursuivi par l'histoire. Pour lui, il savait bien que l'histoire, ça existait. Il a été, je vous disais tout à l'heure, qu'il avait le sang chaud et qu'il était très, très combatif, très militant, qu'il a été obligé de ferrailler contre un certain nombre de fausses valeurs de cette époque-là ou de vraies valeurs comme Bergson. Bergson a été son ennemi intime très vite et très tôt. Et par exemple, à la bibliothèque Victor Cousin, avec Henri Lefebvre, un philosophe important lui aussi, et ils avaient amené une tortue qu'ils avaient appelée évolution créatrice, et ils l'ont balancée dans les jambes de Bergson, qui lui, à l'époque, et évolution créatrice était le titre d'un livre de Bergson, qui lui, à l'époque, était le philosophe officiel, Légion d'honneur, etc. Donc une espèce de grande figure de la philosophie, et Politzer critique Bergson dans un livre qui s'appelle « La fin d'une parade philosophique, le bergsonisme », et il critique ce qu'il appelle le réalisme bergsonien. Il faut faire attention au mot réalisme parce qu'il y a un sens un peu trivial et vulgaire, c'est-à-dire une espèce de philosophie de la réalité. Or, il y a un sens philosophique qui est presque le contraire de celui-ci, puisque Politzer nous dit « le réalisme de Bergson, c'est de chosifier des choses qui n'existent pas en tant que telles, c'est de chosifier la conscience, la conscience, C majuscule ». Et Politzer dit « ça n'existe pas la conscience, C majuscule, l'idée de la conscience, une conscience qui serait totalement déconnectée du réel ». Lui, il oppose la vie et le concret aux objets de Bergson, contre la chosification qu'il appelle donc le réalisme. Il propose ce qu'il appelle une philosophie du drame. Il n'a pas le temps de développer, il dit juste à un moment, j'entends drame, je garde le mot drame simplement pour la métaphore scénique que ça rend possible. Donc aujourd'hui, des gens se battent pour savoir ce qu'il faut entendre par drame. Les spécialistes du théâtre expliquent qu'il voulait dire ceci ou qu'il veut dire cela. Non, il dit drame au sens large du terme, c'est-à-dire quand on a vu sa vie, quand on connaît sa vie, quand on sait aussi comment sa vie se termine, effectivement, elle s'inscrit sous le signe du drame, de l'espèce de facticité d'une vie qui vous est donnée. Nous arrivons au monde entre deux néants, le néant a duré longtemps avant nous, il durera longtemps après nous, et nous ne sommes rien, pas grand-chose. L'espèce de surgissement de notre être dans le monde est un drame. Et c'est sous le signe du drame qu'il faut penser l'existence. Donc pas sous le signe des idées, pas sous le signe du concept, pas sous le signe platonicien d'un idéal, mais sous le signe de la vérité existentielle de votre propre vie. Donc pas les concepts, mais le concret. Dans les fondements de la psychologie, alors évidemment, il n'aura pas le temps de développer cette psychologie concrète. Il crée une revue de psychologie concrète, il en dirige des numéros, et il ne prend pas le temps de développer forcément sa pensée. Mais les gens disent qu'il a échoué avec la psychologie concrète pour une raison bien simple, c'est que ça ne débouche pas, sa psychologie concrète. Elle est impossible, c'est une espèce d'échec en tant que tel. Non, ça n'est pas un échec en tant que tel. Et on dit qu'il est rentré au Parti communiste, il est rentré au bureau politique, et il est devenu militant, et il a laissé tomber sa psychologie concrète. C'est plutôt que, effectivement, quand on fait du militantisme politique, et puis qu'on rentre dans la résistance, et puis qu'on se fait fusiller avant l'âge de 40 ans, on n'a évidemment pas le temps de poursuivre jusqu'au bout les intuitions géniales qu'on aura pu avoir. L'intuition de la psychologie concrète, elle est géniale. Dans les fondements de la psychologie, il écrit ceci. « Tout ce qui concerne les fondements de la psychologie ne peut être élaboré définitivement que par le travail collectif. » Que par le travail collectif. « Parce qu'un système individuel n'est toujours qu'une construction arbitraire et que le travail collectif seul peut aboutir à ce système qu'on appelle une science. » Freud a cru que tout seul, il créerait une science définitive et universelle. Politzer, à la modestie, qui consiste à dire une science, ça ne se crée pas tout seul. Il appelle au travail collectif, à ce que Bourdieu appelait, il y a quelque temps, un intellectuel collectif. Il faudrait fabriquer un intellectuel collectif, c'est-à-dire des gens qui, plutôt que d'être dans la haine, le mépris ou l'insulte, seraient capables de s'entendre pour dire « faisons ensemble ce travail qui permettrait de fonder à nouveau une psychologie concrète, cette psychologie concrète qui pourrait définir une psychanalyse non freudienne. C'est une hypothèse qui est toujours d'actualité, évidemment. On connaît très peu Politzer, et pourtant, tout le monde connaissait Politzer à l'époque. Tout le monde a lu Politzer. Tout le monde l'a pillé aussi. Sartre, Lacan, Lévi-Strauss, Althusser, Deleuze, Guattari, Foucault, etc., etc. Ils ont tous lu Politzer et les fondements de la psychologie. Je voudrais jeter un pont, mais là encore, je vous ai dit que j'étais dans l'hypothèse et que je n'étais pas dans la constitution solitaire d'une science à moi seul. Ça n'aurait pas grand sens, je viens de vous dire que c'était impossible ou impensable. Je me proposais une hypothèse et jeter un pont. L'hypothèse, c'est que, d'une certaine manière, la psychologie concrète, elle débouche sur ce que Sartre appelle la psychanalyse existentielle. Et je voudrais vous parler de la psychanalyse existentielle comme une occasion d'aller bien au-delà de ce que j'ai appelé les guérisons de papier de Freud, puisque vous savez que les fameuses cinq psychanalyses, Petit Hans, Cadora, l'homme au loup, le président Schreber, le Petit Hans, enfin toutes ces démonstrations qui nous ont montré des individus guéris qui ne l'ont jamais été, renvoient effectivement à des guérisons de papier. J'ai dit guérisons de papier parce que Freud a effectivement guéri l'homme au loup, mais il n'a pas guéri Sergueï Pankejeff, qui était l'homme au loup. Donc sur le papier, Freud guérit, mais dans la réalité, il ne guérit pas. Pour aller au-delà de ces thérapies de papier, eh bien, il faut avoir le souci d'une psychanalyse concrète, d'une psychologie concrète, et cette psychanalyse existentielle, elle est extrêmement intéressante. Elle pourrait permettre de réactiver une philosophie matérialiste, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler avec Démocrite, en disant « mais la parole est une molécule ». C'est une idée qu'on trouve dans la pensée des abdéritains, des philosophes d'Abder, parce que tout est matériel chez Démocrite. Démocrite voit un ray de lumière, et dans le ray de lumière, il voit, vous avez tous vu ça, des poussières qui dansent. Et Démocrite dit, mais ces poussières qui dansent et qu'on ne voit pas en temps normal font la preuve qu'effectivement, il y a un monde invisible, mais qui existe tout de même, et qui est le monde des atomes, atomos, impossible à couper. Tout est matière, tout est atome, tout est agencement atomique dans du vide. Et donc la parole, c'est de la matière. Le corps, c'est de la matière. L'inconscient, c'est de la matière. C'est-à-dire que l'effet d'une parole sur un corps est l'effet de la matière sur la matière. Quand vous recevez un appel téléphonique qui vous annonce la mort de quelqu'un que vous aimez, c'est de la matière, cette parole. Elle pénètre votre psyché. Elle désorganise votre psyché. Donc, à l'évidence, il y a un pouvoir guérisseur de la parole, c'est évident. Parce que c'est un pouvoir atomique. Parce que la psyché est organisée et que le langage est susceptible de la mieux organiser, voire de la désorganiser, voire de la pulvériser ou de le pulvériser, cet agencement. Donc il y a un pouvoir de la parole. Il y a donc à travailler sur cette idée que la parole a un pouvoir et que pour autant, il faut faire attention et que justement parce que la parole a du pouvoir, il ne faut pas renvoyer à des mythologies phylogénétiques ou à des histoires qui ne tiennent pas debout. La parole freudienne désorganise la psyché, me semble-t-il. Il faut une parole non freudienne susceptible de réorganiser la matière atomique d'un inconscient. Il faut donc un inconscient neuronal a posteriori. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un inconscient psychique a priori chez Freud, inconscient psychique hérité depuis les transmissions de génération, etc. C'est-à-dire qu'à la naissance, votre inconscient porte déjà un certain nombre de choses déterminantes, eh bien, le matérialisme dit non, à votre naissance, il n'y a rien, encore que. On peut ajouter, après avoir lu les éthologues, que quand je dis à la naissance, disons à la constitution de votre être physiologique neuronal, 24 ou 25 semaines, je crois me souvenir, à partir de ce moment-là, vous allez engrammer des informations, des choses vont avoir lieu dans le ventre de la mère qui vont commencer à informer, c'est-à-dire à donner forme à votre psyché. Donc ce n'est pas à la naissance à proprement parler, c'est à la constitution de votre être que la psyché va se constituer. Mais avant, elle n'est qu'une cire vierge. Il n'y a rien dans une psyché matérielle avant ce qu'on y mettra. Donc l'existence précède l'essence, s'il faut utiliser une formule de Jean-Paul Sartre. Il faut donc construire une psyché. Je pense qu'il faut penser les choses en termes de prévention et que la psyché non construite est une psyché douloureuse. Si on laisse faire la psyché, si on soumet la psyché à l'aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne l'éduque pas, qu'on n'a pas souci d'elle, ni les parents, ni les éducateurs, ni les gens qui sont en relation les uns les autres, cette psyché non faite, elle sera une psyché défaite. Donc je pense qu'il faut travailler, là les pédagogues ont un rôle majeur, un rôle considérable à jouer, en sachant que l'information neuronale, ce que j'ai appelé parfois le dressage neuronal et qui a fait justement dresser le poil de quelques-uns, mais on ne peut pas ne pas dresser neuronalement. Si vous ne faites rien, vous faites quelque chose. Si vous faites quelque chose, vous faites quelque chose aussi. Donc faites, plutôt que ne rien faire, puisque vous savez que quand vous ne ferez rien, vous produirez quand même des effets. Il y avait une belle phrase de Georges Politzer dans « Critique des fondements de la psychologie ». Et Politzer disait « Pour connaître le sens du drame, il faut avoir recours au récit du sujet. » Avoir recours au récit du sujet. Pour que vous sachiez à quoi ressemble votre psyché, si elle a été faite ou défaite, mal faite, par quoi elle aura été mal faite ou par qui elle aura été bien faite, il vous faut faire un récit. Donc le récit, vous pouvez vous le faire. Vous pouvez le faire à un psychanalyste, bien sûr, non freudien, mais vous pouvez vous le faire à vous-même aussi. Et j'avais fait, il y a 8 ans, un cours sur Antiphon d'Athènes, philosophe sophiste. On appelle sophiste non pas ce que Platon appelle sophiste, c'est-à-dire ses propres ennemis, mais un philosophe démocrate, et non pas aristocrate comme Platon, qui prend de l'argent parce que lui, il n'est pas fils de famille et qu'il a besoin de vivre, et qui transmet des techniques de langage destinées à permettre aux gens modestes d'accéder aux fonctions politiques de la cité. C'était ça, Antiphon d'Athènes. Et Antiphon avait inventé une méthode tout à fait particulière, très singulière, puisqu'il disait qu'il interprétait les rêves, il disait qu'il soignait les gens par la parole, et il leur prenait de l'argent pour les guérir, quand il les avait guéris. C'est-à-dire que la thérapie par la parole est une vieille histoire, et que si Joseph Breuer est, au dire de Freud, et l'histoire confirme, l'inventeur de la psychanalyse, avant qu'elle soit inventée, elle existe déjà. Et qu'aussi loin qu'on remonte, il existe effectivement des thérapies par le verbe, des thérapies par la parole. Il faudrait parler du rôle du théâtre antique, du théâtre grec, du théâtre tragique, d'Eschyle, de Sophocle, de la façon dont on utilisait le théâtre pour être dans la catharsis, dans la purification, pour guérir des gens. Il y a un certain nombre de pathologies. Donc effectivement, il y a une vieille tradition qui suppose que dans le langage, par le langage, on puisse construire une psyché, restaurer une psyché défaite ou mal faite ou déconstruite, et qu'on puisse pour le coup avoir un souci de soi qui soit sur le principe de l'auto-analyse. Et l'auto-analyse de Freud, qui est une grande fiction, on n'a pas passé grand temps là-dessus, mais enfin, l'auto-analyse est une idée extrêmement intéressante. Elle renverrait philosophiquement, mais nous n'avons pas le temps, là encore je vous donne des pistes, aux exercices spirituels de la philosophie antique, dont Pierre Hadot a parlé, dont Michel Foucault a parlé, autant d'exercices qui sont des exercices d'examen de conscience. L'examen de conscience a été confisqué par le christianisme, mais aujourd'hui, quand on vous parle d'examen de conscience, c'est plutôt une invitation à la culpabilité, en disant « souviens-toi de ce que tu as fait de pas bien, et puis reproche-toi ce que tu auras pu faire de pas bien ». Or, l'examen de conscience à l'origine, voyez les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, chez les stoïciens, c'est un repli sur soi, c'est une réflexion, c'est-à-dire c'est un fléchissement sur soi, pour que nous puissions savoir ce que nous avons fait, bien fait, pas fait, et pour nous dire « mais je pourrais le faire mieux ». Pour être plus philosophe, je pourrais faire plutôt ceci ou plutôt cela. Il faut un travail d'auto-analyse personnelle. Il faut un travail d'auto-analyse philosophique. Il faut un travail personnel qui s'appuie sur les exercices spirituels de la philosophie antique, avant même que d'aller voir un psychothérapeute qui va, avec sa petite clé, ouvrir vos serrures multiples. De Antiphon d'Athènes à Sartre, le Sartre des mots. Lisez les mots. Les mots est un grand texte d'auto-analyse. C'est un texte de construction de soi par le verbe. Et il pose les bases d'une auto-analyse de ce que permettra par la suite sa fameuse psychanalyse existentielle. Où est-ce qu'on la trouve, sa psychanalyse existentielle? Eh bien, dans L'être et le néant, qui est sous-titré « Essai d'ontologie phénoménologique ». L'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire que je peux vous parler de cette table que vous voyez, mais je peux aussi vous parler de la table en général. Et si on est dans un désert et que je vous parle de table, vous n'avez pas besoin de voir la matérialité d'une table pour savoir ce qu'est une table. Si Sartre avait été un tant soit peu freudien, il aurait écrit un essai d'ontologie nouménale, c'est-à-dire idéale, mais pas phénoménologique. S'il écrit un essai d'ontologie phénoménologique, c'est parce qu'il pense que l'être est un phénomène. C'est-à-dire qu'il est matérialiste, et Nietzsche nous disait que le matérialiste, c'est celui qui disait « contente-toi du monde donné », eh bien, l'ontologie phénoménologique se contente du monde donné. Une psychanalyse non freudienne se contente du monde donné. Pas de magie, pas de phylogénèse, pas de métapsychologie, pas de concepts idéaux flottant dans une espèce d'éternité de la métapsychologie freudienne, mais de la réalité. C'est un texte génial, comme Sartre était capable d'en faire, surtout quand il ajoutait de l'alcool et de la corydrane. À ce moment-là, ça carburait ses vers. Mais en même temps, c'est un chapitre qui méritait des développements qui n'ont pas eu lieu. Et Sartre était un spécialiste de l'inachèvement. Les chemins de la liberté, c'est inachevé. Son essai sur le Tintoret, c'est inachevé. Mais il a essayé, sur le terrain concret, de faire fonctionner sa psychanalyse existentielle avec un petit Baudelaire, avec un plus gros Saint Genet, comédien martyr, et puis avec un très gros Flaubert, l'idiot de la famille, inachevé lui aussi. Jean Genet avait demandé à Sartre qu'il lui fasse une préface pour ses œuvres complètes, et Sartre a rendu un manuscrit qui, publié, fait 600 pages. Donc on peut lire ces trois textes-là. Le plus simple, le plus facile est Baudelaire. Le plus compliqué, il a travaillé plus de 10 ans de sa vie sur Flaubert, c'est l'idiot de la famille. C'est le plus compliqué parce que Sartre est vieilli, usé, fatigué, comme disait l'autre, parce qu'il est abîmé physiquement, parce qu'il prend des amphétamines et qu'il use d'un vocabulaire phénoménologique un peu ennuyeux et parfois un peu abscon. Et on a l'impression que ça piétine, c'est génial, mais ça piétine et qu'on ne va pas assez vite à l'essentiel et que les intuitions ne sont pas développées. Ce qu'il propose, c'est, là encore, si on sait lire entre les lignes, un schéma anti-bergsonien, c'est-à-dire comme Politzer. Pas de réalisme, à savoir de chosification des objets, mais des objets intellectuels, mais une réalité concrète. Il s'agit pour Sartre, avec sa psychanalyse existentielle, d'aller chercher ce qu'il appelle une vérité irréductible, à partir de laquelle on puisse lire l'unification d'un projet originel. Projet originel, c'est l'expression intéressante et importante. Toutes et toutes, ici, dans cette assemblée, vous avez un projet originel. Un jour, vous avez décidé que votre vie se construirait comme ça. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser cette expression. Sartre dit « Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. » Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de vous. Vos parents ont voulu ceci, cela, etc. Votre époque a voulu ceci, cela. Votre famille a voulu ceci, cela. Et vous avez fait quelque chose de ça. Ou vous n'en avez rien fait, mais si vous n'en avez rien fait, vous en avez fait quelque chose. Consentir, laisser faire, c'est faire quelque chose. Mais vous pouvez dire non aussi. Et la construction d'un être suppose un projet originel qui est effectivement le moment dans votre existence où vous avez construit quelque chose qui va se constituer une espèce de thème et votre vie ne sera jamais que variation sur ce propre thème. La plus petite chose de votre existence rassemble la totalité de votre existence. Le diable est dans les détails, dans un geste, dans un clignement d'œil, dans un signalement affectif, dans une absence de signalement ou ce genre de choses, dans une proximité avec autrui ou ce genre de choses. La plus petite chose que vous manifestiez manifeste la totalité de votre être et dit votre projet originel. Le psychanalyste existentiel est celui qui va savoir trouver la formule et vous expliquer qui vous êtes. Si on vous dit qui vous êtes, si on vous explique ce qu'a été votre cheminement, alors vous aurez donné un sens à votre propre existence. D'une certaine manière, je formule l'hypothèse que quand un récit, une narration de votre existence fait sens, elle suppose que votre psyché se retrouve remise en place, en ordre, qu'elle retrouve ou qu'elle trouve une rectitude qu'elle n'avait pas, que l'aléatoire de votre psyché ou le désordre existentiel de votre psyché disparaît au profit d'une construction qui, elle, va vous rendre une sérénité perdue. Cette méthode, elle est plastique, nous dit Jean-Paul Sartre. Elle change avec les individus, elle est nominaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode qui marcherait pour tout le monde, du genre la petite clé freudienne qui marcherait avec toutes les serrures de toute l'humanité. Sartre nous dit non, une clé, une serrure. Et d'une certaine manière, les serrures, elles bougent. Et il faut faire changer la clé aussi en même temps. D'où l'intérêt d'un travail analytique sur soi, d'un travail d'auto-analyse et puis d'un travail de construction d'un récit personnel. Ceci dit, brillant comme d'habitude, Sartre dit « Cette psychanalyse n'a pas encore trouvé son Freud ». Il s'arrête à la fin de ce chapitre-là en disant « Cette psychanalyse n'a pas trouvé son Freud ». Et il ajoute « Il nous importe peu, ici, qu'elle existe. L'important pour nous, c'est qu'elle soit possible. » Et basta, ça s'arrête là. C'est-à-dire que moi aussi, je vais m'arrêter là en vous disant ben « Voilà, il y a une psychanalyse existentielle qui est proposée par Sartre, il y a une psychologie concrète qui est proposée par Politzer, il y a la possibilité de faire entrer à nouveau l'histoire, enfin de faire entrer pour une fois l'histoire dans la psychanalyse, en considérant qu'une psychanalyse non freudienne est une psychanalyse qui fait entrer l'histoire dans la narration du sujet, dans la construction d'individus, pour savoir qui nous sommes en fonction de l'histoire dans laquelle nous nous trouvons, et puis considérer, Et je conclurai avec Politzer que, effectivement, cette discipline dont je propose qu'elle puisse se construire, elle ne puisse se construire que par un travail collectif, communautaire, avec des gens qui, au-delà de l'esprit polémique, considèrent que ce qui est plus important, c'est de construire une psychanalyse non freudienne alternative, parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il y a des souffrances, parce qu'il y a des misères, et qu'on n'enfume pas les gens avec des pensées magiques, ça c'est les mépriser, mais que la philosophie, elle est là justement pour aider à bien vivre, à mieux vivre, et j'espère qu'avec cette année, on aura illustré cette proposition de la philosophie comme une occasion existentielle. Voilà, je ferme la parenthèse sur Freud cette année, et l'an prochain, nous passerons la critique faite par les freudo-marxistes à Freud. Non, mais au freudo-marxisme. Voilà, merci beaucoup. Cette analyse dont je vous ai parlé, qui a été longtemps introuvable, puisque le cahier, les deux cahiers ont été des cahiers de famille, et que c'est un jour une descendante qui découvre les cahiers, qui fait une édition de cet ouvrage, eh bien, ça vient juste de paraître en France, hein, il y a 4 ou 5 mois, mon analyse avec le professeur Freud, Anne Nager, aux éditions Aubier. L'œuvre complète de Politzer est petite et grande en même temps. La fin d'une parade philosophique, le bergsonisme, Liberté nouvelle chez Pauvert. Bon. Les éditions sociales ont publié Écrit 1 et Écrit 2. Écrit 1, la philosophie et les mythes, aux éditions sociales. Le tome 2, lui, est passionnant, Les fondements de la psychologie. Et c'est là que vous verrez évoluer la pensée de Politzer sur ce sujet, c'est-à-dire pas contre la psychanalyse, mais contre ceux qui sont contre la psychanalyse. Et puis par la suite, vraiment critique, jusqu'à ce que des choses extrêmement intéressantes voient le jour, dans un livre qui s'appelle « Critique des fondements de la psychologie », qui pour le coup est le grand livre de Georges Politzer. Vous pouvez aussi lire un texte qui fait la démonstration que critiquer la psychanalyse, c'est pas être forcément fasciste, d'extrême droite, nazi, etc. Les critiques de la psychanalyse de René Bouvresse-Quillot et Roland Quillot. Pour Sartre, je pourrais évidemment vous renvoyer, j'aurais pu vous renvoyer à L'Être et le Néant, mais c'est un petit chapitre. J'aurais pu vous renvoyer à L'Idiot de la famille, mais ce sont trois très gros volumes. À Saint-Genest, comédien martyr, c'est très gros aussi. J'ai préféré la plus petite proposition qui est Baudelaire, d'autant que c'est un texte qui n'est pas encombré de langage phénoménologique, mais c'est un grand essai d'auto-analyse existentielle. Un texte extrêmement intéressant. Et puis, un hommage à Jean-Pierre Changeux et à son livre qui s'appelle L'homme neuronal, qui est un livre un peu technique, mais avec des développements intéressants, qui est un vieux livre maintenant, enfin, mais qui a pu être éventuellement dépassé, probablement d'un point de vue du détail technique, mais sur l'intuition essentielle, nous sommes des êtres neuronaux, ça n'a pas bougé. Voilà pour la bibliographie.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son au Centre dramatique national de Normandie, Philippe Petit. Prise de son, Pascal René, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Véronique Villa. Et lundi, c'est la rentrée. Bon courage.